7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins pour un sujet éducation, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'éducation dite positive. Venue tout droit des États-Unis, vantée par de nombreux manuels destinés aux parents, elle est basée sur l'empathie, l'écoute avant tout, et le respect des besoins de l'enfant. On demande aux parents de rester calmes, de ne pas hausser le ton, d'éviter les ordres, les punitions. Mais ne fait-on pas trop peser de pression sur les épaules de parents, souvent démunis et fatigués? Comment éduquer au mieux ses enfants tout en restant patient? Que peut-on tirer de cette éducation positive? Le Conseil de l'Europe la considère comme l'approche éducative la plus à même de respecter les droits de l'enfant. On en parle au moment où en France, une loi vient d'interdire les violences éducatives ordinaires comme la fessée. Bonjour Béatrice Camerer.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée en éducation et en parentalité. Vous avez publié le livre « Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent » et vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Lyon, dont on remercie au passage les équipes techniques. Bonjour Charlotte Ducharme.
Bonjour Charlie.
Vous êtes coach, vous avez fondé le site de coaching parental Cool Parents Make Happy Kids. Des parents cool font des enfants heureux, pour traduire, et vous en avez tiré un livre du même titre. Alors et vous, les voisins, les voisines, si vous êtes parents, racontez-nous, est-ce que ça crie beaucoup chez vous? Comment vous, vous réagissez quand vos enfants font un caprice par exemple? Quelles sont les règles à la maison? Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71, et comme toujours on vous attend sur les réseaux sociaux Facebook et WhatsApp. Et Conan est à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Il s'interroge, peut-on vraiment éduquer un enfant sans lui crier dessus ou lever la main sur lui? Une question à laquelle nos invités du jour tenteront de répondre. Une voisine, Viviane, nous écrit depuis Lomé au Togo. Nous avons été habitués aux injures, mais pour nos enfants ce sera différent. Ce sera basé sur la communication, le respect et la non-violence. Et je vous lis le message de Jérôme qui est lui aussi au Togo. Personnellement, j'ai été éduquée aussi bien à l'école que par mes parents avec le bâton. Dans le cadre de ma formation d'enseignant, j'ai eu la chance d'apprendre les bases de la psychologie de l'enfance. Alors, je ne répercute pas sur mes enfants la méthode d'éducation que j'ai reçue de mes parents.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
Ça, c'est la version courte. La version longue, disponible sur demande express, c'est 30 minutes de hurlements stridents, une porte claquée 20 fois et une morsure en bonus.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Karine Lelouette. Elle est maman, elle a la trentaine, elle vit en région parisienne. Et ce cri qui n'a pas pu vous échapper, c'est celui d'Oscar, son fils. Car Karine est aussi journaliste. Elle a tiré de son histoire de mère un documentaire sonore appelé « Mon enfant terrible » diffusé sur Arte Radio. Car avec son fils Oscar, elle a tout essayé, ou presque. Récit au micro d'Alice Milou.
Moi j'ai un premier enfant, un premier garçon, qui a aujourd'hui 7 ans, donc qui est né en 2011, qui est un enfant plutôt doux, plutôt sensible, très câlin, etc. Voilà, donc tout se passait bien. Et puis 4 ans, quand il avait 3 ans et 4 mois exactement, est né son petit frère. Il était très nerveux. C'était, contrairement au premier, c'était un gamin qui avait toujours les poings serrés, qui sursautait au moindre mouvement, au moindre bruit, qui dormait par tranche de 20 minutes. Enfin, un petit garçon très 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 nerveux. Bon. Donc ça, c'était la petite enfance. Et puis, peu de temps avant qu'il ait un an, je me rappelle très bien, un jour, je rentre à la maison. Il était gardé par une nounou à la maison. Et cette nounou me dit, il s'est passé un truc bizarre. En fait, il s'est réveillé au milieu de la sieste et il a fait une énorme colère. Sauf que ce truc-là s'est mis à se reproduire de plus en plus souvent et de plus en plus fort. Donc à chaque fois qu'on lui refusait quelque chose, il se mettait dans des états mais apocalyptiques. Physiquement, il devenait rouge écarlate, il se blessait à force de se mordre la lèvre. Moi, j'avais chronométré un moment, ça durait 30 minutes. C'est-à-dire qu'il fallait le laisser s'épuiser jusqu'à ce que la colère passe. Il n'y avait rien à faire. Les scènes que je me rappelle le plus, c'est des scènes souvent liées à une humiliation sociale un peu. Et là, je me rappelle très bien, on allait à un rendez-vous médical pour son grand frère. C'était un mercredi midi. Il était particulièrement mal luné, comme il l'est souvent. On monte dans le bus, un bus bondé avec une chaleur monstrueuse. Et là, j'ai mon môme qui commence à frapper son frère de colère. Là, tout d'un coup, tout sort. Je lui hurle dessus. Je sais évidemment qu'il ne faut pas le faire, mais il fallait que cette colère, cette honte qui m'avait mise, quoi, il fallait que ça sorte, quoi. Donc je me mets à l'engueuler, mais... Tout le monde me regarde à nouveau, je dis « tu me referas plus jamais ça, mais c'est la honte de ma vie, etc. » Je passe mes nerfs sur ce gamin, alors qu'en parole, qu'en mots, mais il me met hors de moi en fait. Ce gamin est capable de me faire sortir hors de mes gonds, mais un truc de ma boule. Moi je sais, par je sais pas quel moyen, c'est arrivé jusqu'à mes oreilles, mais qu'en gros effectivement il faut éviter de crier, qu'il faut se mettre à la hauteur d'un enfant, qu'il faut plutôt lui dire des trucs positifs que le dénigrer, que... Voilà, donc tous ces trucs-là, en théorie, tout ça je le sais, donc... Donc on, le soir, en se couchant, on en a parlé plein de fois avec mon conjoint en se disant bon, on va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça, d'écrire les règles pour tout le monde, pour lui, pour nous.
Qui sont tout ça des outils justement de l'éducation positive.
Donc effectivement qu'on a essayé ces trucs-là, et il faut être tout à fait honnête, quand vraiment on s'y tient, quand on est de bonne humeur, qu'on est calme, qu'on est bien déterminé et qu'on s'y tient.
Pas fatigué,
ça fonctionne. Ne serait-ce que parce que la tension descend plus vite. Maintenant, le problème, c'est la constance. Quand tu as eu ta journée de boulot, quand tu es énervé par perdre tel ou tel truc, et à nouveau, tu es confronté pour une broutille à ton enfant qui se met à hurler, à se mettre en boule. Et ben, y a plein de moments où tu peux pas l'assumer en fait. Il y a plein de moments où juste une espèce de sursaut d'orgueil. Tu te dis, je vais pas me faire emmerder par un truc qui est à peine haut de 1 mètre, 90 cm, maintenant 1 mètre. Il est hors de question qu'il me fasse la misère. C'est moi l'adulte. Et voilà, et tu recommences et tu le punis et tu le prives de machin et tu le prives de télé ce week-end. Et demain, il aura pas son pain au chocolat et tu cries et tu l'enfermes dans sa chambre. Et tous les trucs, évidemment, a priori bannis par tout bon psychologue. Voilà. Et puis, t'es pas fière. Et puis, tu te couches le soir en disant non, ça marche pas. Ça marche effectivement pas. Sauf qu'à ce moment-là, donné, tu pouvais pas faire autrement, en fait. En vacances, dans des moments plus détendus, quand il n'y a pas d'autres pressions du boulot, etc., c'est beaucoup plus simple. En fait, on bricole vachement. Et des fois, je me dis que c'est presque pire de bricoler. Est-ce que le message, il est clair pour lui ? C'est-à-dire que je peux être un jour une espèce de bible de la bienveillance et de l'éducation positive avec « oui, mon chéri, je m'agenouille à côté de lui, qu'est-ce qu'il va pas, raconte-moi », etc. Et 2 heures plus tard, je lui hurle dessus. Parce que j'y arrive pas, parce que je me suis agenouillée à côté de lui et qu'il m'a filé une baffe, en fait.
Témoignage de Karine qui s'avoue impuissante, hein, on l'entend face aux colères de son fils. Béatrice Camerer, vous voulez réagir ?
Ah oui, moi je trouve que ce témoignage est extrêmement emblématique en fait, et surtout il est emblématique du fait qu'il y a une question qu'on pose pas beaucoup aux parents, c'est de savoir de quel côté est le problème. C'est-à-dire que finalement voilà, il y a cet enfant qui crie, qui obéit pas, qui fait tout ce qu'on voudrait pas. De deux choses l'une, soit c'est lui qui a le problème, il souffre, il a un problème voilà, auquel on peut remédier, soit en fait c'est le parent qui a un problème. Et très clairement là, ce qu'on entend dans le témoignage de Karine, c'est que c'est une maman qui est épuisée, qui a besoin de soutien, qui a extrêmement honte. Et en fait, les manuels d'éducation ne proposent pas aux parents de s'interroger sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour avoir un peu moins honte du regard des autres, pour être un peu moins fatigués, pour avoir un peu plus de soutien. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça sur lequel on peut vraiment jouer. Donc ce témoignage est tellement... on a envie d'aider cette maman et de lui dire, mais prenez soin de vous. C'est vraiment ça qui pourrait permettre de finalement tout détricoter et peut-être de retrouver ce comportement qu'elle arrive de temps en temps à avoir auprès de son enfant, qu'elle souhaite avoir auprès de son enfant, puis qu'elle ne peut pas tout le temps mobiliser, parce qu'on est tous des humains quand même.
Charlotte Ducharme.
Oui, je rejoins tout à fait Béatrice. En fait, nos enfants viennent appuyer de façon tout à fait inconsciente sur les boutons qui nous font péter des câbles et nous poussent à travailler en fait sur nos fragilités.
Sortir de nos gonds, c'est ce qu'elle dit.
Exactement. Et en fait, on aura beau essayer d'appliquer toutes les astuces de l'éducation positive, on n'y arrivera pas si avant... là, c'est hyper intéressant, parce que dans ce témoignage, justement, elle reproche à son enfant cette colère incroyable dans le bus, et elle-même, elle réagit par une colère complètement démesurée également. Et notre enfant, en fait, en plus, il apprend avant tout par imitation, donc ce qui nous pousse à faire, entre guillemets, un travail sur nous, à mieux se comprendre nous, à mieux comprendre pourquoi on est en colère, qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous. Donc c'est pour ça que voilà, dans nos coachings, par exemple sur SOS Scolaire, on propose du développement personnel et de gérer d'abord sa propre colère, parce qu'en fait, si on est énervé face à la situation, on peut juste rien faire.
Donc d'abord comprendre sa propre colère à soi en tant que
voilà, parent. Voilà, et exactement, et travailler sur sa propre colère, et ça, contrairement à ce qu'on peut penser, ça se travaille. Personne n'est colérique de nature. Ça, c'est super important. Tout le monde peut évoluer là-dessus. Tout le monde peut gagner en sérénité face à des événements qui nous énervent, que ce soit avec notre conjoint, avec le loupage d'avion, d'embouteillage ou notre enfant. Et on peut vraiment évoluer sur notre propre colère. Et c'est un super beau chemin qui, justement, nous permettra aussi d'avoir une relation plus apaisée à notre enfant, avec notre enfant. Et puis, lui, de lui donner un peu, entre guillemets, pas un modèle. Mais en tout cas, si nous, on est en colère, c'est compliqué de l'aider à s'apaiser lui. Quoi.
Mais Karine peut aussi penser que le problème initial, c'est la colère de son fils. Là, on a l'impression que c'est sa colère à elle qu'il faut remettre en question.
En fait, ce qui est très intéressant sur la colère, c'est-à-dire que la colère, c'est une émotion qui vient de nous. C'est-à-dire que face à une même situation, il y a des personnes qui seront en colère et d'autres qui ne seront pas en colère. Et en fait, c'est pas tant l'extérieur et tant mieux qui, même si ça participe, mais qui nous met en colère, c'est voilà la combinaison entre toute notre vécu, toute notre enfance, toutes nos croyances, toutes nos peurs qui font qu'on explose à un moment donné où un autre parent en fait exploserait pas. Et on a tous nos fragilités et ça vaut le coup de travailler sur celles qui nous concernent.
Alors on va peut-être essayer. Oui, Pédris également. Il y a aussi la question du regard des autres et de la pression sociale parce que quand elle décrit cette honte absolument sidérale, c'est bien du regard des autres dont on parle. Donc c'est bien de la pression au résultat qu'on met sur le dos des parents. On veut que finalement socialement, un enfant ne bouge pas, soit sage comme une image, ce qui n'est absolument pas la caractéristique d'un enfant. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous des enfants normaux, mais on essaye tous de les faire coller à une attente sociale déconnectée de ce qu'un enfant normal est censé faire.
Et dans d'autres pays, ça ne serait pas du tout la même chose. D'ailleurs, c'est drôle parce que cette situation, un enfant qui fait une colère en France, on a profondément honte, on se dit que c'est de notre faute ou que c'est notre enfant qui est mal élevé. Et en Suède, par exemple, tout le monde les passants vont pas lui dire ah là là ma pauvre tu gères mal ton enfant ou ton enfant est complètement colérique et ils vont dire ça va passer. Ça va passer.
Plus de compréhension, d'empathie.
Et donc, du coup, c'est sûr qu'il y a moins de pression. Et moins on se met de pression, mieux tout passe aussi.
Alors, on va peut-être définir un instant l'éducation positive, hein, ou cette parentalité positive, qui s'inscrit dans la foulée de plusieurs courants. Donc, d'abord, celui de la communication non-violente, qui est né dans les années 70. Puis, dans celui aussi des neurosciences, qui sont développées à partir des années 90, pour mieux comprendre ce qui se passait, notamment dans le cerveau des enfants. Aujourd'hui, on veut aussi voir l'enfant, Béatrice Camerer, comme une personne à part entière.
Oui, absolument. Oui. Bah, ça fait aussi partie. En fait, l'éducation positive, c'est extrêmement difficile à définir. J'ai même vraiment envie de dire qu'il n'y a pas de définition arrêtée. Ne serait-ce que parce que en France, on a une certaine définition de l'éducation positive. En Europe, aux États-Unis, ils n'ont pas tout à fait la même. Quand on regarde la définition qu'a proposée le Conseil de l'Europe, on a une définition qui est très proche de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais il définit pas exactement, vraiment précisément ce que c'est. Donc voilà, on a tout un ensemble d'influences. Vous en avez cité un certain nombre. Voilà. La communication non violente, les courants rogériens aux États-Unis, les neurosciences, et puis voilà ces nouvelles valeurs qui se sont affirmées tout au long du XXe siècle, que l'enfant est une personne, qu'il va falloir l'écouter, s'acheminer vers un modèle démocratique, parce que c'est ça qui va permettre son épanouissement. Et il faut bien comprendre à l'heure actuelle que l'éducation positive n'est pas étudiée et définie par exemple les universitaires et la recherche. C'est vraiment un terme qui est utilisé par les parents, par les militants de terrain, mais sur lequel tout le monde ne s'entend pas, mais voilà, qu'on peut quand même regrouper autour de cette idée que l'enfant doit être respecté, que son point de vue doit être pris en compte et doit être associé aux décisions qui le concernent. Donc c'est vraiment le modèle d'une famille démocratique qui voit l'épanouissement de l'enfant comme son affirmation en tant que personne, qui à mon avis met le plus de monde d'accord après avec chacun ses techniques, ses méthodes et ses courants philosophiques particuliers.
Alors si on peut prendre peut-être une situation concrète, votre enfant rentre à la maison, n'enlève pas ses chaussures alors que c'est la règle, qu'est-ce qu'on lui dit ? On ne s'énerve pas ?
Alors je pense que
il y a vraiment, enfin, on peut lui dire, mais mille choses différentes. Le principe, entre guillemets, enfin, voilà, si on, je rejoins tout à fait à Béatrice, il n'y a vraiment pas de définition précise, mais c'est de considérer que l'enfant a droit à autant de respect avec que nous, ce qui ne veut pas dire qu'il a les mêmes droits. Hein. Il est, voilà, il y a des choses qu'il ne va pas avoir forcément le droit de faire du fait de son âge, mais en tout cas, il a droit au même respect que nous. Et en plus, comme l'enfant apprend avant tout par imitation, l'objectif est d'essayer de se comporter avec lui comme on aimerait qu'il se comporte avec les autres.
Donc on ne va pas crier. On va essayer d'éviter.
On va essayer voilà, d'éviter de crier. Après, si on, dans notre tête, on a absolument comme objectif de ne pas crier, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, je pense que cette pression ça va être encore plus compliqué d'être bienveillant avec notre enfant si on se met une trop grosse pression. Mais en effet, c'est d'essayer de se comporter avec lui comme on aimerait qu'il se comporte avec les autres, ce qui est très challenging.
Voilà. Alors, on va jeter une oreille à notre boîte vocale WhatsApp.
Je crois qu'il faut d'abord tout simplement commencer par entraîner le consentement de l'enfant, lui faire comprendre que bon voilà, c'est pas comme ça, mais on peut faire ça de telle ou telle autre manière. Quoi. Je crois que c'est un peu ça. Quoi.
Bonjour les voisins, juste pour vous dire, il y a des gens qui utilisent la violence, d'autres non, mais le plus souvent pour qu'un enfant obéisse, on doit surtout lui crier dessus ou lui donner des coups, mais c'est une chose que normalement qui ne se fait plus, mais on voit le résultat quand on laisse la personne libre, tout ce qui peut se passer, alors l'enfant n'obéit pas, c'est vraiment difficile.
Bonjour voisin, bonjour voisine, moi c'est Christian depuis Douala au Cameroun. Moi très souvent concernant le désordre effectué par les enfants, parce que j'en ai deux en passant, lorsque ça crie, ça jacasse, ça court dans tous les sens, je peux faire subir. Et bien, si je peux faire subir, c'est parce que je ne veux pas ressembler à mon père qui, lui, tonnait, grondait, était plutôt assez violent. Et ça n'a pas forcément marché dans la mesure où l'image qu'on a gardée de lui, c'était celui d'un tyran. Puis il fallait absolument faire ce qu'il demandait. Donc moi, j'ai adopté une attitude plutôt très protecteur avec les enfants et quand ça crie, ça bavarde partout, moi, je préfère plutôt dire, bon voilà, il n'y a pas besoin de crier pour vous faire entendre. Et très souvent, ça marche, mais des fois, ça ne marche pas et je suis obligé d'abandonner. Ça dit plutôt que de dire à l'enfant, vas-y, allez, ça suffit, va dans ta chambre. Et bien, c'est moi qui viens dans ma chambre et je le laisse le pouvoir, le plein pouvoir. Donc moi, je ne voulais pas fragiliser ces enfants mentalement. Et je me dis, bon voilà, en le faisant, ils pourront mieux s'épanouir.
Alors, être obligé de se réfugier dans sa chambre comme ce voisin qui nous a laissé un message, Christian, j'imagine que c'est difficile à accepter, Béatrice Camerère.
Alors c'est difficile à accepter, on peut le voir de deux manières, on peut aussi voir que ce parent il avait besoin de calme et puis il est allé s'isoler et quelque part il a respecté son besoin. Donc moi je ne le vois pas forcément dans une perspective de lutte, de savoir qui gagne ou qui perd, parce que c'est un peu ça hein, aussi le changement de modèle que propose l'éducation positive, c'est d'arrêter de penser que finalement les parents et les enfants c'est un champ de bataille et on va savoir qui va gagner, qui va perdre. Donc moi c'est vraiment ça que j'entends dans ce parent. Par contre, on entend aussi la souffrance de l'enfant qu'il a été. Il dénonce les méthodes délétères qu'il a subies. Et bon, voilà, c'est tout à son honneur de vouloir essayer de faire différemment, d'inventer différemment. Il est en train d'expérimenter plein de choses. Voilà, et c'est important de ne pas perdre de vue le respect de ses propres limites, parce qu'il n'y a que comme ça hein, qu'on va pouvoir être un parent épanoui et efficace du point de vue de son enfant.
Alors j'aimerais vous relayer ce message de Christian, un autre Christian qui nous a appelé de Martinique et qui a été choqué par ce qu'il a entendu dans le témoignage de Karine. Il nous dit, pour lui, pour moi, il n'y a plus de règles, les enfants n'ont plus de limites. Voilà, je suis très inquiet de cette société où les enfants ont l'air de ne plus avoir de limites. Charlotte Ducharme, qu'est-ce qu'on peut répondre ?
Alors je pense que les limites dépendent de chaque parent, de chaque famille, de chaque pays. Mais en tout cas, l'éducation positive, c'est pas... mais il a raison de peut-être éventuellement le penser, parce que beaucoup de personnes, je pense, le pensent, mais c'est pas du tout une éducation qui est sans limite. c'est d'essayer d'appliquer, d'avoir des limites, parce que les besoins des parents sont tout aussi importants que les besoins de l'enfant. Donc il ne s'agirait pas, à l'époque, entre guillemets, on privilégiait les besoins des parents au détriment de ceux d'enfants, et c'est moi qui prime, c'est moi qui décide, c'est comme ça, c'est pas autrement, et si t'es pas content, c'est comme ça. Là, on se dit, l'enfant, lui aussi, a droit du respect, a droit qu'on tienne compte de ses besoins, mais il ne s'agirait pas que les besoins de l'enfant passent au-dessus de celui du parent, parce que c'est juste, si nous, en tant que parents, on n'est pas bien, on ne va pas pouvoir de toute façon bien se comporter avec notre enfant. Du coup, il y a forcément des limites qui sont les nôtres. Il s'agit maintenant de réussir à les faire respecter tout en respectant notre enfant.
Remplacer les injonctions par de la coopération, c'est l'idée de l'éducation positive qu'on décrypte aujourd'hui. On essaie de donner des clés aux voisins et aux voisines qui nous écoutent et qui sont parents. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 hein, si vous avez envie de témoigner ou si vous avez besoin de conseils. Et justement, on va accueillir un voisin tout de suite.
Ici 7 milliards de voisins.
On est ensemble. Pour les voisins.
Bonjour Malolo.
Bonjour Charlie et bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour, vous êtes à Pointe-Noire en République du Congo. On vous écoute Malolo.
Voilà, mais moi dans mon cas, j'ai deux guerriers à la maison. Donc un garçon de 7 ans et un garçon de 4 ans. Ils sont en vacances en ce moment, donc vous imaginez bien qu'ils sont à la maison, qu'ils passent leur temps à jouer, à mettre les jouets partout. Des fois ils veulent dessiner, mais ils arrêtent le dessin, ils prennent les jouets. Et j'ai remarqué que chaque fois que je leur dis « rangez les jouets », ils ne collaborent pas très bien. Alors j'ai réfléchi à une idée, chaque fois que je vais les voir ranger, je leur dis « écoutez, il y a un travail d'intérêt général à faire ». Et là, quand ils entendent le terme « travail d'intérêt général », pour eux, ça devient un peu comme de l'amusement, et ils ramassent avec plaisir les jouets. Et de temps en temps, bien sûr, je mets la main pour les aider à ramasser. Donc pour eux, ça devient, au-delà de la sanction, entre guillemets, ça devient comme quelque chose de ludique, comme un jeu, et ils le font avec plaisir. Bien sûr, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive assez souvent.
En tout cas, les mots « travail d'intérêt général », ça suffit à les faire ranger.
C'est super, oui, tout à fait. Ou opération rangement, ça marche aussi. Mais si on arrive à utiliser le jeu, c'est juste génial parce que nos enfants, ils adorent jouer. C'est par là qu'ils apprennent aussi dans notre monde. Donc, quand on est suffisamment en forme et avec un peu d'humour, c'est sûr que les choses passent beaucoup plus facilement. Et c'est une belle façon de communiquer que de motiver l'autre par le jeu, par exemple, si c'est un enfant.
Et Malolo, comment ça vous est venu, cette idée-là de passer par le jeu?
En voyant en fait certaines séries télé familiales, on se rend compte que lorsque les enfants font des bêtises, plutôt que de les punir comme on voit dans certains cas où les gens vont mettre le piment dans les yeux des enfants ou bien de les chicoter, ils se disent « bon, écoute, tu vas faire un travail d'intérêt général, tu vas travailler pour le bien de tout le monde ». Et c'est un peu comme ça, j'ai un peu fait dévier ça pour le rendre un peu plus positif, plus ludique et plus amusant. Et ça marche vraiment assez souvent.
Et c'est voilà. La responsabilité. Merci beaucoup, hein, Malolo, pour ce témoignage. Béatrice Camerère.
Oui, je me permets de rajouter, parce que ce témoignage, moi, ce que j'entends, c'est pas que du jeu, c'est aussi une énorme valorisation de ce que font les enfants. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner dans le modèle de l'éducation positive. Hein. C'est-à-dire que là, ce qu'il propose Malolo, c'est pas simplement de faire jouer ses enfants, c'est de leur dire « vous êtes utile à la famille, ce que vous faites, vous contribuer vraiment. » Et ça aussi, c'est une manière de considérer l'enfant comme une personne, et évidemment que ça suscite la coopération, parce qu'on a plutôt envie d'être de se savoir utile au sein d'une famille. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très important.
Alors un voisin, Oumarou, est un peu sceptique sur cette idée d'éducation positive. Il nous écrit de Maroua au Cameroun. Je vous lis son message. « L'empathie avec les enfants semble la meilleure manière d'éduquer un enfant, mais lorsque l'enfant sait qu'il y a de l'empathie du côté de ses parents, est-ce que cela ne le poussera pas à faire d'autres bêtises, puisqu'il il sait que même s'il fait des bêtises, il n'y aura pas de violence. » C'est une question qui revient souvent dans les messages qu'on peut avoir sur ce sujet aujourd'hui, Charlotte Ducharme.
Donc là, ça vous sous-entend entre guillemets que l'enfant, une façon de le faire obéir et la violence. Du coup, en effet, c'est plus facile, plus facile, oui, probablement, de faire obéir son enfant si la sanction, c'est de la violence, des privations, etc. C'est plus facile de diriger, entre guillemets, une dictature qu'une démocratie et d'utiliser la force pour soumettre quelqu'un. Mais le problème, encore une fois, c'est que l'enfant, il apprend avant tout par imitation. Et là, on l'entend beaucoup dans les témoignages. J'en ai marre, mon enfant crie, mon enfant fait une colère. Et en fait, on lui crie dessus. Ou il est violent à quelqu'un, alors j'utilise la violence. Mais du coup, en fait, il apprend par imitation. Donc, on rentre dans un cercle un peu vicieux, quoi.
7 milliards de voisins, comment éduquer au mieux ces enfants? Quels apports de l'éducation positive? Si comme Malolo, vous voulez témoigner vous aussi, appelez-nous pour nous raconter comment ça se passe chez vous au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71. Et nous, on se retrouve dans un instant.
Sept milliards de voisins, c'est sur RFI.
Souffle le lien, mon enfant roi magicien.
L'enfant est roi chez Noir Désir, et au cinéma aussi, il est souvent roi et capricieux.
Lola, tu raccroches et tu viens manger.
Mais chut, je suis au téléphone, c'est pas poli. J'en ai marre, si c'est ça, j'ai pas à l'école.
Toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves.
Tu vois mon fils, peut-être bien que nous allons...
Silence!
Ne monte pas là-dessus, allez, sors vite de cette chambre.
Essaye de m'y forcer si tu veux vraiment que je le fasse.
Tu ressors de ma chambre, tu frappes, et quand j'aurai dit entrer, tu pourras entrer.
À genoux, devant notre roi.
Faites pas ça, ça me gêne trop.
Alors, on a entendu beaucoup de vulgarité dans ces extraits de films. Certains craignent l'éducation positive, qui donc promeut l'écoute, l'empathie, et disent qu'elle peut conduire à créer des enfants rois, voilà, ces enfants tyrans à qui on n'ose plus dire non. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce sujet-là, Béatrice Camerer ?
Alors moi, l'idée de l'enfant roi, je trouve ça très amusant parce que ça fait extrêmement longtemps, hein, c'est une peur très ancienne des adultes, l'idée que les enfants vont prendre le pouvoir, l'idée qu'ils vont perdre la main. Il y a quelques jours, je relisais le poème de Victor Hugo, je ne sais pas si vous voyez, le Jeanne était au pain sec, donc c'est le grand-père qui raconte qu'il amène des confitures à sa petite fille qui est punie en fait, et qu'il se fait réprimander par les parents en disant, mais regardez, il dit pas vous allez en faire un enfant roi, mais c'est un petit peu l'idée, vous allez conduire les peuples à leur ruine en agissant comme ça. Donc voilà, ça veut dire qu'on a déjà au moins une bonne centaine d'années, même un peu plus, de peur de que les enfants renversent le pouvoir des adultes. Moi, je pense que ça décrit en creux aussi le fait que les adultes sont dans l'insécurité vis-à-vis des enfants, mais qu'ils ont oublié, alors qu'eux-mêmes ont été enfants, à quel point les enfants n'ont pas beaucoup de contrôle en fait sur leur vie. Hein. Ils décident pas ce qu'ils vont faire de leur journée, ils décident pas vraiment comment ils vont s'habiller, ils décident pas vraiment de ce qu'ils vont manger. Enfin, la vie des enfants, c'est quand même une vie très contrainte. Alors voilà, on a toujours cette vieille peur. Je pense qu'il serait temps que les adultes s'en débarrassent parce qu'on a plutôt besoin de coopérer avec les enfants et en général ça se passe assez bien. Mais voilà, on peut pas dire que c'est l'éducation positive qui va fabriquer des enfants rois, ou alors ça fait bien longtemps qu'on fait déjà de l'éducation positive.
Charlotte Ducharme, vous voulez réagir sur cette question de l'enfant roi ?
Alors oui, les passages que vous avez passés sont pas forcément révélateurs.
C'est pas le quotidien non plus des parents.
Ouais, de l'enfant roi, parce que c'était beaucoup d'opposition, où c'était plus une bataille entre un parent et un enfant qui a rien d'éducatif en fait. Il y en a un qui s'oppose à l'autre s'oppose. On est plus dans une bataille que dans l'éducation. Mais en fait, souvent, dans les médias, etc., on peut parler parfois d'enfants qui, d'enfants rois, d'enfants qui font n'importe quoi. L'autre jour, il y a quelques temps, il y avait un enfant qui avait poignardé son professeur et on avait considéré que ça, c'était vraiment de l'enfant mal éduqué, de l'enfant roi. Alors qu'en fait, derrière cet enfant, il avait juste peur pour son bulletin de notes et peur que son père le gronde si t'as ce bulletin de notes. Et parfois, en fait, les enfants qu'on considère comme des enfants délinquants ne sont pas du tout des enfants rois. C'est des enfants qui ont été délaissés, qui manquent d'amour ou qui, au contraire, ont des parents qui sont plutôt violents chez eux. Je pense que parfois, on fait un raccourci assez rapidement entre enfants rois et enfants à qui on permet tout, alors que c'est plus des enfants soit délaissés, soit qui ont un souci à la maison.
L'enfant roi, oui, c'est un mot valise. J'aimerais vous lire le message d'âme d'Amou qui nous écrit de Douala au Cameroun et qui nous dit « Il faut privilégier les discussions calmes avec son enfant, mais quand même susciter la peur de recommencer. » On parle encore de peur là, parce que à bas âge, ce n'est que la peur qui peut fixer les limites pour un enfant. Alors j'aimerais aussi poser cette question, comment on maintient, est-ce que vous avez des conseils là-dessus, une certaine autorité malgré tout ?
Je trouve que ce que disait Béatrice tout à l'heure était intéressant, justement sur le fait que l'enfant aussi, il a envie de coopérer, il a envie de faire partie, d'être utile, il a envie de faire plaisir aussi aux autres. Donc je ne suis pas sûre que la peur soit le seul et unique moyen de diriger notre enfant. On l'a vu aussi dans le témoignage, le jeu est aussi une motivation, le fait d'apporter aux autres. Et on préfère, je préfère me dire que mon enfant va mettre la table parce qu'il se sent utile, parce qu'il a envie de faire plaisir, plutôt qu'il le fasse par peur d'une réprimande. Quoi.
Béatrice Camerer.
Oui, j'ajouterais aussi que cette idée qu'on doit éduquer par la peur, en tout cas on doit inculquer la peur de recommencer, ça c'est vraiment l'héritage de la psychologie américaine du début, milieu du XXe siècle. C'est le conditionnement, c'est Pavlov, c'est tout ça. C'était l'idée qu'on allait pouvoir apprendre en conditionnant avec des renforcements, des choses agréables pour encourager les bons comportements et des choses désagréables pour encourager pour décourager plutôt les mauvais comportements. Donc ça repose déjà sur un modèle d'apprentissage qui en fait est assez daté. Aujourd'hui, on considère plus du tout que ce soit aussi c'est pas aussi simple, et évidemment ça marche pas de manière aussi caricaturale. À cela s'ajoute quand même la question des valeurs derrière, quoi, parce que éduquer à la peur, ça veut dire que on considère que notre éducation, ce sont une série de traumatismes. On pense qu'on va traumatiser comme ça l'enfant et le conduire à avoir le comportement qu'on voudrait. Je pense que c'est une représentation qui est plus tout à fait en adéquation avec ce qu'on espère construire. On espère plutôt construire des enfants résilients, pas des enfants traumatisés, qui soient capables de mobiliser leurs ressources, parce qu'on sait que l'avenir va quand même être plein de défis. On a plutôt envie d'avoir des enfants solides et donc pas des enfants traumatisés et terrorisés. Donc c'est là où, on peut interroger ce modèle et se dire qu'il est peut-être un peu daté et plus tout à fait voilà, cohérent avec les données scientifiques actuelles.
Les voisins, ah oui, allez-y.
C'est un peu comme si, qu'est-ce qu'on veut pour notre enfant plus tard, adulte? Est-ce qu'on veut qu'il ne se gare pas, par exemple, sur une piste cyclable de peur d'avoir une contravention? Ou est-ce qu'on souhaite qu'il ne se gare pas sur une piste cyclable parce qu'il se dit que ce serait quand même pas très cool pour les cyclistes?
Oui, c'est ça. Il faut qu'il comprenne en fait le sens.
S'il donne du sens et qu'il le fait par cœur plutôt que par peur, c'est quand même plus chouette.
Les voisins, les voisines, la parole est à vous. Nous sommes en ligne avec Mahamat qui est à N'Djamena au Tchad. Bonjour.
Oui, bonjour. Alors, bonjour les voisins et bonjour 7 milliards de voisins.
Merci d'être avec nous dans l'émission.
Oui, j'ai des enfants, le grand à 7 ans et demi, le petit à 6 ans. Et tout le temps, je fais les disputes entre eux, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Parfois, je le conseille, ils écoutent, parfois non. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Le petit en train d'essayer de m'appeler papa, papa. Le grand, il a dit que oui, bébé. Et le petit énervé, il a jubilé directement. Il a dit, ah, ça c'est quoi, c'est encore, et dit, tu es puni? Le grand a répondu directement, oui. Il faut que tu le punisses et demain ne l'appelle plus bébé. Les grands, je pense qu'il est jaloux envers le petit. Le petit, il pense que c'est lui, le petit, il est permis à tout. Et quand je demande le grand de faire son devoir et faire ceci, cela, il dit que vous me demandez trop, pourquoi pas lui? Et il se dispute, mais il ne se part pas en se promenant ensemble. À dehors, c'est ensemble. Moi, j'ai dit que vous faites semblant quand je suis venu à la maison, vous discutez et vous, chaque fois, c'est papa fait ceci, papa fait cela. Et parfois, ils écoutent, parfois, non. Bon.
C'est difficile hein, de faire régner un petit peu que... la. Voilà, je suis désolée, la ligne est un petit peu mauvaise, Mahamat, je vais devoir vous interrompre, mais donc pour résumer un petit peu votre propos, donc Mahamat, vous avez donc deux enfants de 6 ans et 7 ans et demi, voilà, des jalousies entre les deux, le petit qui a giflé le grand, et puis en fait Mahamat aussi qui a une question, c'est est-ce qu'il faut être un peu méchant avec les enfants, ou est-ce que c'est trop horrible? Voilà pour sa question, Béatrice Kammerer.
Oui, alors je pense que non, il ne faut pas être un peu méchant avec les enfants, c'est ce que Charlotte Ducharme a dit tout à l'heure, hein. Quand même on montre un exemple, on montre une manière d'agir, voilà, il ne s'agit pas d'être parfait, hein, parce que bon, quand on a débordé, quand on a crié, on montre aussi comment est-ce qu'on agit quand notre comportement n'est pas aussi parfait que ce qu'on aurait voulu, donc ça aussi on l'apprend à ses enfants, hein. Donc ça je pense que c'est important. Par contre la méchanceté, je pense que ça va un peu à l'encontre de tout ce dont un enfant peut avoir besoin. On sait qu'un enfant, il se construit sur la relation d'attachement, donc qui va se construire sur la question de la sécurité. Est-ce que son parent va le sécuriser, va lui permettre d'être suffisamment disponible et de répondre à peu près à ses besoins vitaux pour être en sécurité? Et ça, je pense que c'est vraiment la base dont ils ont besoin pour grandir dans la vie et contre laquelle il faut pas aller. C'est ce qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce humaine si longtemps, hein. C'est bien parce que les adultes prennent soin des enfants et donc leur apportent ce cadre de sécurité qu'ils peuvent prendre le temps d'apprendre, parce que voilà, on a une très longue enfance, c'est parce qu'on est entouré et sécurisé par des adultes.
Mais Béatrice Kammerer, qu'est-ce qu'on peut par exemple conseiller à un parent dont les enfants se disputent par exemple, se giflent l'un l'autre, voilà, peuvent être violents? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester dans un cadre d'éducation positive?
D'abord, il y a des limites à mettre, parce que la violence n'est pas tolérable d'un adulte vis-à-vis d'un enfant, mais elle n'est pas non plus tolérable d'un enfant vis-à-vis d'un autre. Et ça fait partie des valeurs de la famille, qui sont aussi celles de l'éducation positive, mais voilà, qu'on peut faire vivre dans une famille, c'est déjà une première limite à mettre. C'est pas acceptable, c'est pas un geste qui est acceptable. On a le droit d'avoir des sentiments, mais on n'a pas le droit d'avoir des comportements violents. Après, on va faire vivre dans sa famille un peu l'idéal de société qu'on essaye de défendre par le biais de l'éducation positive. Donc cet idéal de communication où chacun va pouvoir dire ce qu'il a sur le cœur, parce que souvent lorsqu'il y a des violences entre frères et sœurs, c'est qu'il y a des sentiments peut-être d'être délaissé ou d'être mis de côté ou d'être celui qu'on n'aime pas, et tout ça, faut pouvoir en parler, parce que les parents aussi ont des choses à dire par rapport à ça. C'est pas facile d'être le membre d'une fratrie, et là encore on construit des ressources précieuses pour l'avenir, parce que les fratries c'est aussi ce sur qui on peut compter quand on est adulte. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va pouvoir introduire et qui sont peut-être ce qu'on peut peut dire aux parents, c'est ils voient ça négativement parce que c'est fatigant, les enfants qui se bagarrent, c'est épuisant même en général, mais c'est aussi des occasions d'apprendre. Alors voilà, il faut prendre le temps de prendre soin de soi et puis après se dire, bah tiens, en fait, je vais leur apprendre qu'on peut s'écouter, qu'on peut s'exprimer, que peut-être on a des choses douloureuses à dire, mais que tout ça, on va le traverser ensemble. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de précieux à leur transmettre dans la vie.
Alors nous sommes en ligne maintenant avec Ibrahim, un voisin de Cotonou. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour, 7 milliards de voisins.
Merci d'être avec nous, on vous écoute Ibrahim.
Oui. Bon, moi je pense que l'éducation des enfants, il faut être strict avec les enfants. Il faut être un peu dur avec les enfants, pas être méchant. Et lorsqu'un enfant fait quelque chose qui est bien, il faut le récompenser. Mais lorsqu'il fait quelque chose de mal, et comme on le dit chez nous communément, il faut lui tirer les oreilles. Par exemple, moi, mes enfants, je suis un peu dur avec eux. Il y a plusieurs raisons. Parce que, d'abord, c'est ça qui forge leur caractère. Lorsqu'un enfant est toujours passif, ça dit, lorsqu'un enfant fait quelque chose et que vous le dorlotez à tout moment, il va aller le répéter dehors. Et là, d'abord, c'est l'image des parents qui sont en jeu. C'est l'image des parents qui est en jeu. La petite expérience que j'ai vécue, c'est que dès qu'ils ont commencé par aller à l'école, leur comportement est un peu différent de beaucoup d'autres enfants. Et à chaque fois, quand il y a quelque chose, les enfants faisaient des bêtises et que l'enseignant devait les punir, il y en a dans leur classe. Hein, vous savez, les enfants, ils sont vraiment, vraiment bizarres. Ils pointent du doigt et mon fils comme quoi il fait partie de ceux qui ont fait la bêtise.
De ceux qui font des bêtises.
Oui, mais l'enseignant, étonné, il dit non. Il dit, lui ne pense pas que cet enfant puisse faire quelque chose.
En tout cas, Ibrahim, vous dites que vous êtes plutôt dur avec vos enfants. Ça vous arrive de les punir aussi quand ils font des bêtises, justement?
Oui, parce que moi, j'ai reçu une éducation de cette façon. C'est-à-dire, on m'a éduqué de façon dure. On m'a dit, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Et cela fait, aujourd'hui, dans le quartier où nous habitons, c'est le respect. Quand les enfants passent, tout le monde, ils sont différents. Et la bête, c'est qu'ils ont des cousins. Et quand ils se voient pendant les vacances, oh là là, les autres viennent rapporter toujours pour dire vraiment, tes enfants, ils ont une bonne éducation.
Mais et vous êtes plutôt fier, effectivement, de cette éducation-là. Merci beaucoup, Ibrahim, pour ce témoignage. Vous voulez réagir, Charlotte Ducharme?
Oui, c'est vrai que donc c'est intéressant comme témoignage où donc vous disiez voilà que vous trouvez ça voilà intéressant d'être dur et de dire ça c'est bien, ça c'est mal, et quand tu fais quelque chose de mal, bah on te tire les oreilles et on est dur. Mais ça serait génial, je sais pas, mais par exemple, nous, en tant qu'adultes, on est loin d'être parfaits. Les adultes, en règle générale, sont peut-être même moins parfaits que les enfants, ou en tout cas, leurs bêtises sont peut-être encore plus grandes que celles des enfants. Et quand un adulte, même nous, par exemple, imaginons que nous sommes un adulte voilà, qui frappe parfois ses enfants, qui donne voilà des fessées, des claques, etc. Bon, en soi, est-ce que vaut mieux pas bien ranger sa chambre ou donner une claque et frapper l'autre? Voilà, on sait que la violence c'est pas quand même quelque chose qu'on a envie de prôner. Eh bien, on a beau nous dire arrête d'être violent. Comme exactement le témoignage qu'on a eu en tout début de radio, arrête d'être violent, arrête de crier sur tes enfants, ne donne pas des fessées, etc. S'il suffisait de nous le dire pour qu'on arrive à arrêter et qu'on nous dise ça c'est mal donc ne le fais pas, et ben ça serait génial. Mais aujourd'hui en fait ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'on nous dit que ça c'est mal qu'on arrive à arrêter de faire quelque chose qui est mal. Et du coup c'est pas forcément en tirant les oreilles ou voilà en donnant une fessée que l'enfant va réussir à arrêter de le faire, parce que sinon si ça marchait d'ailleurs ça serait, mais comme on est obligé de le punir plusieurs fois, etc. Donc là, c'est intéressant d'aller un peu plus loin et si on arrive à comprendre le comportement de notre enfant, pourquoi est-ce que mon enfant, là, il a tapé l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si on arrive, par exemple, mon enfant a mordu quelqu'un, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, mais ma chienne, elle m'a traité de bébé. Ok. qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois que machine te traite de bébé pour réagir autrement qu'en tapant ? Ah bah je pourrais lui dire, je pourrais m'en aller ou lui dire oui oui je suis un gros bébé, attention, je sais pas quoi. Et bien là on va lui proposer des solutions plutôt que des sanctions et peut-être qu'on aura plus de chances voilà, que son comportement soit différent la fois prochaine parce qu'on lui a proposé des solutions pour l'accompagner qu'une peur et une sanction parce que voilà, s'il a juste peur ensuite qu'on lui tire les oreilles, ça va être difficile pour lui quand il va être face à la situation de se restreindre.
Alors parmi les critiques hein, qu'on adresse à cette éducation positive, on lui reproche notamment, Béatrice Camerer, de culpabiliser les parents hein, avec cette idée d'un parent un peu parfait, modèle, calme, patient. Comment faire en fait quand on est parent et que répondre à ces critiques-là ?
Oui, c'est quelque chose qu'on pointe souvent du doigt et puis c'est quelque chose qui ressort quand même dans ce que disent les parents hein, quand on les interroge à propos du modèle de l'éducation positive parce que je pense que c'est un modèle qui leur est beaucoup parvenu au travers de méthodes un peu toutes faites, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup à côté du sens, du bon sens et des valeurs dont on a parlé là tout au long de l'émission qui sont en fait ça, hein, l'essentiel. Eux, ils reçoivent l'éducation positive par le biais de méthodes, alors ils essaient de les appliquer. Ça marche pas toujours bien pour eux, surtout ils ont l'impression que si ça marche pas c'est qu'ils ont vraiment rien compris, que c'est très difficile et donc ils sont très culpabilisés. À cela s'ajoute voilà cette idée que faut pas crier, qu'il faut pas avoir des comportements violents, etc., ce qui est tout à fait, effectivement ça fait partie de l'objectif qu'on essaye d'atteindre, mais parce qu'on veut pas reproduire, parce qu'on ne veut pas donner cet exemple aux enfants, avec peut-être l'idée qu'on n'aurait plus droit à l'erreur. Et ça, je pense que c'est un gros écueil. Alors voilà, il y a plein de personnes qui alertent hein, déjà un petit peu là-dessus. Non pas qu'il faudrait des parents qui feraient des erreurs de manière volontaire, ce serait complètement fou, mais montrer à son enfant comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on se sort d'une situation quand on n'a pas bien agi ou qu'on regrette, ça fait aussi partie de l'éducation positive et c'est même quelque chose à mon avis fondamental parce que voilà, il ne s'agit pas du tout d'élever nos enfants dans un modèle fantasmé, hein, parce qu'on n'y arrivera jamais, de perfection. Il faut justement leur apprendre comment est-ce qu'on tisse des liens, comment est-ce qu'on coopère et comment est-ce qu'on traverse des situations de conflit. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment ces deux points-là qui sont à l'origine de la très forte culpabilité des parents, mais qui est tout à fait réelle et qui, à mon avis, si on n'y fait pas très attention maintenant, risque de faire capoter un modèle qui est quand même porteur de valeurs extrêmement importantes pour notre société.
En tout cas, être parent, ça s'apprend.
Ah oui, en tout cas, ça se travaille.
Ça se travaille au jour le jour.
Petit pas après petit pas.
Et j'aimerais, pour terminer, vous lire ce joli message de Mamadou à Bamako. Un enfant, j'en rêve, mais je n'en ai pas encore. Lorsque j'en aurai, je prendrai soin d'eux. Un enfant, c'est le plus beau cadeau qui puisse exister dans la vie. Je veux les entendre dire papa, les voir courir de gauche à droite, jouer au foot avec eux, les aider à faire leurs lacets, leur apprendre à parler. Voilà, je voudrais vraiment leur réserver une vie meilleure. Et donc être parent pour rejoindre ce que dit Mamadou, c'est aussi tous ces plaisirs-là et apprendre à composer. En fait, on ne s'invente pas parents.
Voilà.
Merci beaucoup à vous, Charlotte Ducharme. Merci, Béatrice Camerer. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Sophie Janin à la réalisation. Elsa Olaizola en coulisses. Sigrid Azerwal. Cécile Lavolo. Romain Arnaud. Adrien Toureux. Il y a du monde hein, aux manettes. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. On va retrouver Diarra Ndiaye pour son émission Alors on dit quoi ?
Alors on dit quoi ? Avec Diarra Ndiaye.
Bonjour Diarra.
Bonjour Charlie.
Cette semaine, vous nous parlez des relations amoureuses.
Effectivement, aimer et être aimé, c'est un peu le désir le plus profond de chacun d'entre nous. Mais comment trouver la bonne personne ? Via les réseaux sociaux ou les sites spécialisés ou tout simplement dans la rue ?
D'abord, tout a commencé sur Internet, précisément sur Facebook. On a mis en commun et il m'a envoyé une demande d'amitié. Automatiquement, j'ai pas réagi, j'ai fait 2 mois passer et quand je l'ai vu, j'ai vu que ce que je voyais sur sa page Facebook était vraiment différent de ce qu'il était en réalité. On a commencé à s'accrocher jusque-là, tout va bien jusqu'à ce que je sois son épouse aujourd'hui.
L'amour 2.0, pour qui et pourquoi ? C'est demain à
11h10, TU Charlie.
À demain.
Merci.
Alors, on dit quoi ? Avec Diarra Ndiaye.
Voilà, et 7 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette semaine. La semaine prochaine, vous retrouverez Emmanuel Bastide derrière le micro. 7 milliards de voisins vous emmène dans ses valises à la découverte des villes du monde. Comment y vivent les voisins et les voisines? Et lundi, c'est vivre dans une ville émancipée, direction Montréal, au Canada. À bientôt, les voisins. Bel été. Et puis tout de suite, dans quelques instants, vous allez retrouver RFI Midi.